Chapitre 34. Le 28 novembre 2010. Je sors du cinéma quand je découvre que j'ai un message vocal de Paul. J'essaie de voir et parfois revoir les films en salle. J'ai toujours eu le goût de la salle, surtout celle de la première séance. Sans bruit de pop-corn, ni crissement des paquets de bonbons, ou lumière crue du téléphone portable d'un voisin. Le matin, il y a peu de voisins. J'ai le goût du grand écran, des bandes-annonces et des publicités. Quand je vois le petit mineur balancer sa pioche sur la cible, mon cœur bat la chamade. J'ai besoin d'avoir la vision des cinéastes du monde entier, quel que soit leur âge, leur origine. Comprendre pourquoi ils ont passé des années à préparer, écrire, convaincre, éclairer, filmer une histoire. On ne dirige pas un grand acteur ou une grande actrice, on le dose. Je suis et resterai toujours amoureuse de ce dosage. Pierre fait partie des Stradivarius de ce métier. Maman adorait que je dise cela de mon mari. Cela la ramenait à son instrument de prédilection. Ce matin, au Studio 28, on fêtait les 17 ans de la leçon de piano. Pas les 10, ni les 20. J'ai demandé au directeur pourquoi les 17. Parce que c'est un chiffre porte-bonheur. Comment le bonheur pourrait-il résister à Jane Campion? Je pense à elle en descendant la rue Tolosé, mon téléphone à la main, repoussant l'instant où je vais écouter le message de mon ami flic. Je pense à papa, qui aurait adoré ce film. Jane et Jean se rencontrent à travers mes pensées. Il fait froid, mais le soleil éclaire le quartier.
Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 11h10.
Ouais Agnès, c'est Paul. Rappelle-moi s'il te plaît, je t'embrasse. Au fait, je suis rentrée à Paris.
Aux dernières nouvelles, Soutkovski, qui ne devait pas passer la nuit, en a déjà passé deux. Je n'ai pas envie de rappeler Paul. Je préfère rester quelques minutes encore avec Harvey Keitel et Holly Hunter sur une plage de Nouvelle-Zélande. C'est fait pour ça, le cinéma. Je m'installe à la Villa des Abbesses, le temps de boire un café. Je vide ma tasse avant de composer son numéro. Mon cœur est serré comme un poing. Je crois que je ne veux plus rien apprendre. Le décès de Colette m'a projeté dans un précipice sans fond. J'ai parlé à Anna. Quand elle a ouvert les yeux hier matin, je n'ai pas tiré les rideaux, et dans la pénombre, j'ai murmuré « Mon amour, Blanche est sans doute ma mère biologique. » Un précipice sans fond. Anna n'était pas prête à recevoir cette information cataclysmique. Elle m'a serré très fort dans ses bras. J'ai ajouté, sans qu'elle me demande quoi que ce soit, « Mon père et Blanche se sont connus. » Et je l'ignorais. Rue de la Liberté, nous avons acheté des croissants et sommes entrés au Jade, le bistrot en face de la mairie de Guignon. J'ai imaginé mon père pénétrer dans ce bâtiment 38 ans auparavant pour déclarer ma naissance. Anna a pris place dans la salle côté rue. Elle a commandé un chocolat. C'est trop bien pour la maison d'Antoine. C'est vraiment ta maison, maman. Et elle a enchaîné sans me laisser le temps de répondre. Maman, si tu n'étais pas ma mère, tu me le dirais? Chérie, je t'ai conçue, portée, aimée. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre nous.
Je sais. Je n'ai jamais eu de doute.
Instinctivement, je sens que Blanche m'a confié à Anna pour me sauver, me libérer. M'offrir une autre vie que la sienne. Mais Anna restera toujours ma mère et ta grand-mère. Si un jour j'ai une fille, je l'appellerai Blanche. Comme ça, la boucle sera bouclée. J'ai pris ses mains dans les miennes, ses belles mains de pianiste, et nous n'avons plus parlé pendant de longues minutes. Nos fantômes respectifs tournoyaient autour de nous. Tu penses que Coco savait? Colette a respecté le silence de son frère, sans doute par peur de Soutkovski. Encore lui, toujours lui. Soutkovski, tout pourri. Cela m'a amusé. Et Anna a ajouté « Putain, mam, c'est ton grand-père !» Nous nous sommes regardés, les yeux écarquillés avant d'en rire. Que faire d'autre? Un psychopathe, il ne manquait plus que ça, ai-je rétorqué. Oh, les poules! Colette a hébergé Blanche pendant 7 ans. Leur amitié a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais à toi, ça te fait quoi de découvrir cette bombe? Maman m'a tellement parlé de ses parents adoptifs, Benjamin et Éléonore, elle les adorait.
Elle répétait que les liens du sang ne font pas les liens. En parlant d'eux, elle me parlait sans doute de nous. « Regarde, la vraie mère de Coco était un monstre, » a dit Anna. « Oui, un monstre. Ma tante a failli en crever. » Pauvre Colette. Heureusement que Mokhtar l'a aimée comme un père. Tu sais, ma chérie, une naissance, c'est merveilleux. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, et c'est une grande et belle nouvelle. Crois-moi, j'aurais adoré ne pas être seule. Anna a d'abord fait la moue avant de consentir. Nous sommes ressortis du jade. Anna a pris mon bras. Des siècles qu'elle n'avait pas fait ce geste-là. Nous avions 3 heures devant nous avant de partir pour la gare. Elle voulait venir avec moi rue des Fredins pour rencontrer la voisine d'en face qui fait des soupes et c'est des choses. Quelles choses ? N'en savais-je pas suffisamment ? Je crois qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus reconstituer le puzzle, mais simplement le ranger dans une armoire. Que c'était les autres qui voulaient savoir pour moi. Madame Aubert était dans son jardin. Elle versait des graines dans une petite cabane à oiseaux suspendue à un arbre. C'était la première fois que je la voyais de près et non derrière sa fenêtre. Les cheveux courts, son joli sourire m'a rappelé celui de Josiane Balasco. Sa simplicité et ses yeux pleins de malice aussi. À cet instant, j'ai réalisé que son visage ne m'était pas inconnu. C'était une cliente de la cordonnerie.
« Bonjour Agnès. Louis m'a prévenu que vous passeriez me voir. C'est votre fille ?»«
Oui, je m'appelle Anna. »
« Bienvenue, Anna. Tu ressembles à ton grand-père comme 2 gouttes d'eau. Tu joues du piano comme lui ?»«
Oui, je vais rentrer au conservatoire. »«
Ah, ça c'est bien, mon petit. Agnès, je peux parler devant votre fille ?»«
Oui. »«
Suivez-moi, on va pas rester dehors, il fait trop froid. »
Sa maison ressemblait à celle de Louis. De nombreuses maisons et beaucoup d'intérieurs se ressemblent dans la région. Des maisons qu'on n'a jamais quittées. Les mêmes entreprises de bâtiments, les mêmes années de construction, la plupart entre 1950 et 1975, les mêmes fenêtres, toits, crépis, sous-sols, meubles, électroménagers encastrés, tissus, rideaux, papier peint. Comme Louis, elle m'a fait un café filtre. Anna a bu un jus d'orange en bouteille. Madame Aubert a tiré 2 chaises, posé une boîte de sablé breton sur la nappe en toile cirée, un cliché. La toile cirée, la boîte en métal, la pendule des années 60 accrochée au mur. Des enfants, sans doute adultes à présent, souriant au bord de la mer dans des cadres. Les mâts à grands, le sucre dans une autre boîte, plus petite. Madame Aubert n'a pas attendu que je l'interroge. Elle a entamé un long monologue que ni moi ni Anna n'avons interrompu. On aurait pu entendre une mouche voler quand elle arrêtait de parler pour réfléchir, être précise. Même si en cette saison, les mouches sont mortes.
Je suis née à Guignon pendant la guerre en 1940. J'avais 6 ans de plus que Colette. Je l'ai connue quand elle est entrée en apprentissage chez Mokhtar. Mes parents étaient clients chez eux. J'aimais beaucoup Colette. C'était une gentille. J'ai toujours su qu'elle entretenait une amitié très forte avec la petite foraine. Blanche et Colette se ressemblaient beaucoup. Quand elles se sont rencontrées à l'école en 1953, moi j'étais au collège. Et quand Blanche est revenue à Pasteur en 1956, j'étais surveillante. Je les vois encore déjeuner toutes les 2 sur un banc devant l'établissement. On aurait dit des jumelles. Un jour, mon père est allé aider une dame parce qu'un animal s'était échappé du cirque. J'ai eu la peur de ma vie. Je fréquentais un des membres du cirque et nous étions dans sa caravane quand j'ai vu mon père débarquer devant le chapiteau. J'ai cru qu'il venait pour moi, pour me ramener à la maison. Mon amoureux s'appelait Nestor. Il était immense et beau comme un dieu. On n'a jamais rien fait de mal. Il a toujours été respectueux avec moi. Il avait 15 ans de plus que moi, mais je l'aimais follement. Parfois, je regrette d'avoir été si sage. Ce matin-là, je m'en souviens comme si c'était hier, on était en train de se dire adieu. Nestor repartait et je pleurais dans ses bras. On a assisté à une altercation entre le père de Blanche et le mien. Je tremblais de trouille. Si mon père m'avait vu, il m'aurait fiché une sacrée raclée. Il n'aurait pas eu peur des 2,10 mètres de Nestor. Sa fille mineure fréquentait un forain de cet âge. Ça l'aurait rendu fou, mon pauvre papa. Le soir, il nous a raconté, à ma mère et à moi, ce qu'il avait vécu le matin. L'animal échappé, les hurlements de Madame Fernandez chez qui la pauvre bête s'était réfugiée, le sale type qui dirigeait le cirque, et sa petite fille dont il avait eu pitié. Il a répété plusieurs fois « Je vous jure, une petite fille qui n'a plus le regard d'une petite fille parce que sa maman est morte. » Nestor m'avait dit que la mère de la gosse s'appelait Marie Roman et qu'elle était de Flumet. « Moi, je pense qu'elle se cache », il avait ajouté. « Rien ne prouve qu'elle soit morte. Une fois déjà, elle s'est sauvée. Je l'ai connue quand Blanche est née, elle a voyagé avec nous pendant 2 ans. Il faut voir comme elle était malheureuse avec lui. J'ai jamais vu un homme aussi méchant avec sa femme. » Mon père culpabilisait de n'avoir rien pu faire pour cet enfant. Et moi, je ne pouvais pas lui avouer ce que je savais. Alors, j'ai acheté une carte postale au bureau de tabac. J'ai choisi une photo de l'église de Guignon en me disant que Dieu pourrait donner un coup de main à la gamine. Et j'ai écrit en majuscule de la main gauche « La mère de la petite est vivante. Elle est née à Flumet et s'appelle Marie Roman. » J'ai adressé la carte à mon père, puis je l'ai glissée dans la boîte aux lettres de la mairie. J'ai fait ça pour qu'il essaie de retrouver cette Marie Roman. Mais il s'est rien passé. Et Nestor et son cirque ne sont jamais revenus. Des années plus tard, j'en ai parlé à Colette. Je lui ai raconté toute l'histoire et mon béguin pour Nestor, dont elle se souvenait. Blanche lui avait dit que sa mère était morte. Le père avait dû lui mentir. Colette n'avait plus de nouvelles de son amie d'école, mais elle ne l'avait pas oublié. J'ai longtemps ignoré le nom de Soutkovski. Nestor l'appelait Soudoro. Je vais vous faire un aveu. J'ai attendu mon beau circassien pendant des années. J'ai longtemps rêvé qu'il revienne pour m'épouser. Et puis, je me suis résignée. La place de Gaulle est restée vide, comme mon pauvre cœur. Je me suis mariée sur le tard avec un autre, et nous avons eu 2 beaux enfants. Entre-temps, moi aussi, je suis rentrée à la mairie de Guignon. J'ai travaillé dans différents services. Maintenant, je suis en retraite. Mais j'enseigne le français bénévolement, et je n'arrêterai jamais. J'ai toujours mon père, mais j'ai perdu mon mari.
Elle s'est levée pour se rendre dans la pièce d'à côté, puis elle est revenue triomphante avec une bouteille de Porto et 2 verres en cristal. Sans me demander mon avis, elle m'a servi. Il était à peine 11 heures et je n'avais aucunement envie de boire. Elle m'a fixé droit dans les yeux.
« À présent, je vais rentrer dans le dur. Dans ce qui vous concerne, Agnès. Ce petit verre ne sera pas trop, ni pour vous, ni pour moi. »
Elle a joint le geste à la parole et on a avalé une grande rasade. J'ai senti qu'Anna avait envie de rire tout en étant suspendue à ses lèvres.
« Je vais commencer par Jean, qui est venu déclarer votre naissance à l'état civil le 23 octobre 1972. Je n'ai rien oublié. C'était un lundi matin, il devait être 10 heures quand il s'est présenté. Il faisait si beau qu'on se serait cru au printemps. J'avais ouvert la fenêtre du bureau. Jean m'a tendu les papiers d'identité de votre maman et les siens en me disant « Je suis papa d'une petite fille ». Et il a ajouté « Anna n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital, le bébé est arrivé en quelques minutes. Elle est née avec 3 semaines d'avance. » Surprise, j'ai demandé qui avait mis cette petite fille au monde. Il m'a répondu, des larmes dans la voix, « Ma sœur. » Colette. Il n'était pas rare que des femmes accouchent à domicile, mais depuis les années 60, ça n'arrivait plus. En 1972, il n'y a eu que 2 naissances à Guignon, dont la vôtre. Les autres bébés sont nés à la maternité de Paray-le-Monial. On était venu passer 2 jours de vacances chez Colette et la petite est arrivée. J'ignorais que la femme de Jean était enceinte. Quant à Colette, je la voyais régulièrement et elle m'en avait jamais parlé. C'est vrai qu'elle n'était pas bavarde, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais dès qu'un événement concernait son frère ou le football, elle devenait un peu plus loquace. J'ai demandé à Jean si Anna avait vu un médecin. Il a répondu que le docteur Laborie était passé et que la mère et l'enfant se portaient bien, mais que dans la précipitation, il avait oublié de remplir le certificat d'accouchement. Colette me l'apporterait dans la semaine. Jean avait l'air bouleversé. J'ai évidemment pris son émotion pour celle d'un homme qui devenait père pour la première fois. J'ai établi l'acte de naissance, malgré le papier manquant. Vous verrez, c'est bien ma signature qui est dessus. Une fois les papiers officiels remplis, j'ai demandé votre poids et votre taille comme ça, par réflexe. J'ai vu qu'il n'en savait rien. Elle est toute petite, mais elle t'aide bien. Et quand je l'ai félicitée en l'embrassant, il s'est écroulé dans mes bras. Nous étions seuls dans le service et j'ai pensé que les artistes sont des âmes sensibles. Je lui ai fait un café, qu'il a bu les yeux dans le vague, puis il est parti. Je n'ai cessé de réfléchir à ce qu'il m'avait dit et j'ai commencé à douter. Vous êtes né dans la nuit du 20 octobre, dans la nuit du vendredi ou samedi, et Jean a attendu le lundi matin pour déclarer votre naissance. J'ai appelé le docteur Laborie pour en avoir le cœur net. Il était très proche de Colette depuis qu'il avait soigné Mokhtar Behram. À la fin, il passait tous les jours. La secrétaire m'a informé de son absence. Il était en déplacement depuis une semaine. Pourquoi Jean m'avait-il menti? Que cachait cette naissance qu'il avait fait sangloter dans mes bras? 7 jours plus tard, Colette est venue déposer le certificat de naissance signé par Laborie, comme si c'était lui qui avait pratiqué l'accouchement d'Anna. Quand je lui ai dit qu'elle aurait pu être sage-femme, elle m'a supplié de n'en parler à personne. Pour être honnête, Agnès, au début j'ai pensé que Colette était votre mère et que pour une sombre histoire, elle vous avait confié à sa belle-sœur et à son frère. Alors j'ai posé la question. Me connaissant, Colette savait que je ne la laisserais pas partir sans avoir de réponse et que je garderais le secret. Je suis au courant de tout sur tout le monde dans cette ville, mais personne ne sait rien sur personne venant de moi. Colette s'est assise. Elle m'a fait de la peine. Elle m'a raconté que le 20 octobre, Jean avait débarqué chez elle avec 2 femmes, la sienne et Blanche Soutkowski. Colette a d'abord cru à une surprise et ils avaient retrouvé son amie d'enfance. Mais elle a déchanté devant leur mine sombre. Quand Blanche a retiré sa gaine, sa grossesse était évidente. Jean a annoncé à sa sœur qu'il était le père de l'enfant, sans autre explication sur leur rencontre. Rien. Et comme Jean était déjà avec Anna, Colette a pris Blanche pour une mère porteuse. Jean l'a suppliée de l'aider à mettre ce bébé au monde. Colette a d'abord refusé, disant qu'elle ne savait pas le faire. Jean a répliqué qu'elle l'avait fait 100 fois... et il a promis qu'en cas de complication, il appellerait un médecin sur le champ. Je n'ai pas souvenir que Colette ait jamais refusé quoi que ce soit à son frère. Blanche, elle, l'a regardée comme sa seule amie, sa providence. Le temps de cette pauvre petite était compté. Elle devait être rentrée 3 jours plus tard à Lyon, sinon Yevgeny Soutkovski la tuerait. Rien que 3 jours pour libérer cet enfant d'un funeste destin. Avec sa gaine, le sale type ne s'était aperçu de rien. Colette a alors compris la situation. Elle a précisé que non seulement Anna n'avait pas paru désolée ou en colère, mais qu'en plus elle avait tenu la main de Blanche quand le travail avait commencé, lui prodiguant des gestes doux et rassurants. Ils ont dîné tard. Blanche leur a avoué qu'elle vivait recluse, bien qu'elle ait un travail. Et il a été décidé dans la petite cuisine de Colette que jamais le secret de cette naissance ne devrait être révélé pour que l'enfant puisse vivre en paix. Colette et Blanche ont dormi ensemble. Que lui a-t-elle confié de sa liaison avec Jean? Je l'ignore et n'ai jamais osé poser la question. Quand quelqu'un te confie un secret, sois muet. Blanche était arrivée au terme de sa grossesse. La pauvre avalait des litres de tisane de fleurs de framboisier depuis la veille pour ouvrir son col, ayant entendu dire que ça accélérait l'accouchement. Est-ce grâce à ce remède de grand-mère, ou parce que, auprès de Colette, elle s'était sentie en confiance et avait relâché sa garde? Vers 1 heure du matin, la poche des os s'est rompue. Et c'est bien Colette Septembre qui vous a mise au monde. Anna a coupé le cordon. Elles ont découvert le sexe du bébé, toutes les 3. Blanche vous a mise au sein pendant ces 2 jours de sursis et vos deux mères ont veillé sur vous, côte à côte. Vous avez dormi ensemble, serrées les unes contre les autres. Vous êtes une enfant de l'amour, Agnès. À n'en pas douter.
J'ai vidé mon verre de Porto. Anna a pleuré dans mes bras. Pourquoi devais-je apprendre les circonstances de ma naissance chez cet inconnu, près de ma fille? Ce n'était pas sans raison. Colette m'a mise au monde. Aucune trace de l'événement dans les enregistrements audio laissés pour moi par ma tante. Pourquoi? Par peur que quelqu'un d'autre que moi les intercepte? Que m'ont-elles chuchoté pendant ces 2 jours? M'ont-elles bercé, tour à tour? Chanté des berceuses? J'ai fermé les yeux, posé mes 2 poings sur la nappe cirée et j'ai imaginé mes mères penchées sur moi. Mon père et sa sœur entrer et ressortir de la chambre pour laisser ces 2 femmes en paix avec leur nouveau-né. Laquelle des 2 a choisi mon prénom? Et ma chère Colette, qui n'a jamais été maman, comment a-t-elle vécu ce bouleversement? Je n'ose imaginer la séparation. Quand Blanche a dû partir, s'est-elle retournée? A-t-elle pris de mes nouvelles? Auprès de mes parents ou de Colette? De ma mère ou de mon père? Quand nous venions chez ma tante et qu'elle entendait ma voix et celle de ma fille, que ressentait-elle? Quand elle m'a découverte à la télévision ou à travers mes films, que s'est-elle dit? C'est ma fille? Ou c'est Agnès? Et quand elle a appris la mort de mon père dans les médias, a-t-elle appelé Colette ou Anna? Plus on a de réponses, plus on se pose de questions. Cécile Aubert m'extirpe de mes pensées en poursuivant son récit.
En 2004, je suis dans une salle d'attente, je feuillette un vieux magazine et son nom me saute au visage. Soutkovski. Il est recherché par la police de Marseille. J'ai couru prévenir Colette. Elle est devenue livide en découvrant l'article. Elle le croyait en prison. Elle a aussitôt fermé son magasin pour rentrer chez elle. J'ai alors compris qu'elle était toujours en relation avec son amie d'enfance et qu'elle avait peur pour vous. J'ignorais qu'elles vivaient ensemble. Je l'ai compris 3 ans plus tard. Imaginez mon chagrin quand j'ai appris le décès de Colette. Et ma stupeur quand j'ai vu Louis Berthéol venir tous les jours en face de chez moi depuis que j'avais emménagé. Je n'ai jamais traversé la rue pour interroger Colette. Je l'ai vue sortir, je l'ai reconnue, je ne l'ai pas interpellée. Je l'ai laissée vivre sa mort tranquille. Je savais que la situation était particulière. D'ailleurs, je vous aurais jamais parlé si ce vieux salaud n'était pas dans le coma. Si le père de Blanche avait connu votre existence, il aurait fait comme avec les autres, il vous aurait enfermé ou tué. Grâce au silence de votre père, de Colette, d'Anna et de Blanche, vous avez grandi en femme libre. Et votre fille aussi.
Est-ce que Colette vous a dit comment s'était passée la séparation entre Blanche et moi? Cette question est la seule que j'ai posée.
Colette n'a pas assisté à la séparation. Ils sont repartis tous les 3 en voiture avec vous dans un couffin. Colette m'a dit qu'en l'espace de 48 heures, elle était passée de tout à rien. Au vide. Assise face à moi comme une petite misère, elle a terminé son incroyable récit. Elle m'a fait tellement de peine qu'à partir de ce jour, je suis souvent passée la voir. Et puis, je vous ai regardé grandir. Vous en avez passé des séjours chez Colette, avec vos copains, dont mon petit Liesse que j'aime tant.
En me relevant, je tenais à peine sur mes jambes. Cécile Aubert nous a embrassés chaleureusement. J'ai demandé si à tout hasard elle possédait une photo de Blanche, même enfant, comme elle avait fréquenté Nestor. Mais non. J'ai aussi demandé pourquoi elle avait traversé la rue uniquement pour déposer des soupes sur mon paillasson plutôt que de me parler. Elle a répondu que jamais elle ne m'aurait raconté cette histoire si je ne l'avais pas questionnée. Anna a repris mon bras. Nous sommes rentrés à l'hôtel pour préparer nos bagages. De temps en temps, nous brisions le silence en nous lançant des mots ou des bribes de phrases. J'ai pensé à la chanson d'Alain Souchon, « Chanter, c'est lancer des balles ». Tu crois que Jean et Blanche se sont aimés? C'est chelou d'avoir une histoire avec une meuf qui ressemble à sa sœur. D'après Louis, elle ne dégageait pas la même chose. Tu penses que ça a duré longtemps entre eux ? Quand même. Colette. Mon carnet de santé avec la signature de Laborie. On devrait faire la peau au vieux. Tout ça, c'est à cause de lui. Les événements se sont déroulés à Lyon. Allez au cabaret des oiseaux. Marie Roman. Il a abandonné Natalia comme un chien. La femme à barbe, elle l'a élevée. Toi, tu me chantais le temps qui court. Je pesais 2,4 kg et je mesurais 42 cm. Viens, on va à l'hôpital et on le débranche, comme dans Dr House. Pourquoi Nestor est pas revenu? Tu crois que si Tout pourri n'avait pas existé, Jean aurait préféré rester avec Blanche plutôt qu'avec Anna? Un assassin. Cécile Aubert, elle a peut-être aimé son mari. Ça va aller, maman, t'es sûre? Ça va aller. Elles sont mortes. Mes origines reposent en paix, sous terre. T'es amoureuse d'Antoine? J'ai presque envie de te répondre. Heureusement.